Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Plus de 25 ans après la première guerre des Balkans et les terribles combats qui l'ont détruite, la ville de Vukovar, dans l'est de la Croatie, est toujours hantée par le souvenir des massacres. Les jeunes partent par vagues, à Zagreb ou à l'étranger, dans l'espoir d'une vie meilleure et surtout pour trouver un travail. Et c'est le reportage de Laurent Génin.
Vukovar était autrefois une ville prospère, lovée au bord du Danube, au centre de la riche plaine agricole de Slavonie orientale. Depuis la fin de la guerre, la majorité des rues du centre ont été reconstruites, mais le souvenir des combats hante encore les mémoires. Le 18 novembre 1991, au terme de 3 mois d'un terrible siège, l'armée yougoslave et les milices serbes étaient entrées dans les ruines encore fumantes de la cité. Dans le petit village d'Ovčara, à quelques kilomètres de Vukovar, un mémorial a été inauguré en 1998 en souvenir des massacres.
L'armée populaire yougoslave a investi l'hôpital de Vukovar. C'est là qu'ont été regroupés des civils et des blessés, en tout 261 personnes. Ils les ont conduits dehors, où les attendaient les paramilitaires serbes. Ils les ont battus et torturés.
Depuis le retour de Vukovar sous la souveraineté de Zagreb en 1997, les habitants qui avaient été expulsés sont revenus vivre en ville, mais difficile d'oublier les blessures du passé, surtout quand perdure une grave crise sociale. Brane Bjelić est serbe et journaliste à Radio Dunav, l'antenne la plus écoutée de la région.
La situation est pire que jamais en raison de la crise économique. Quand vous êtes dans la misère, quand vous n'avez pas d'argent, les politiciens peuvent facilement utiliser le peuple pour leur intérêt, le manipuler, rendre la situation encore plus mauvaise. C'est ce qui leur permet de continuer à rester au pouvoir.
Vukovar est aujourd'hui l'un des bastions des nationalistes du HDZ, l'Union démocratique croate. Et pour les extrémistes, pas question que les 30% de Serbes qui vivent en ville puissent utiliser l'alphabet cyrillique, un droit pourtant reconnu par la constitution croate.
Les droits des Serbes sont très bien garantis par la loi. Et les lois de la Croatie sont excellentes. Mais malheureusement, dans la pratique, on ne les applique même pas à 20%. Par exemple, à Vukovar, les Serbes ont droit à des documents administratifs en cyrillique, à des emplois réservés dans l'administration. Mais ils ne peuvent pas bénéficier de ces avantages. Le gouvernement s'y oppose et fait de l'obstruction de toutes les manières possibles.
Martina Bukalo-Uglik anime le groupe de paix des jeunes du Danube, une ONG qui permet le dialogue entre les communautés et qui propose des activités aux adolescents de la ville. Elle observe, impuissante, l'exode des plus jeunes en quête d'un emploi et d'une vie meilleure.
Les jeunes qui veulent rester ici n'ont pas d'autre solution que de prendre la carte d'un parti pour avoir un emploi. Tous les autres, ceux qui ne veulent pas adhérer à un parti politique, sont obligés de partir. Les salaires sont très bas et il n'est vraiment pas facile de trouver du travail. De plus, on ressent des tensions à tous les niveaux, pas seulement économiques. Il faut vraiment appartenir à des structures politiques pour avoir une chance de s'en sortir.
Martina raconte que les relations entre les gens sont bonnes au quotidien, mais que la situation peut vite basculer dans la violence. À plusieurs reprises ces dernières années, des nationalistes ont détruit des plaques en cyrillique posées sur les murs des administrations locales.
Il suffit d'une petite étincelle pour que tout ce que l'on a construit pour la paix et la tolérance soit détruit en une seule journée par la politique, par 30 ou 40 personnes qui pensent différemment. Tout ceci provoque la terreur chez les gens ordinaires qui n'osent pas se révolter même s'ils ne sont pas d'accord.
Le nombre d'habitants de Vukovar diminue un peu plus chaque année. Ils étaient 27 000 au recensement de 2011 contre 46 000 en 1991. Raal, un Comorien de Marseille et volontaire pour quelques mois, au sein du groupe de paix des jeunes du Danube. Il aide les personnes âgées isolées à faire leurs courses et à entretenir leur jardin.
Pas mal de gens me demandent à chaque fois qu'est-ce que je suis venu faire là, parce que eux ils me disent qu'il n'y a pas beaucoup de travail ici, donc à chaque fois il faut qu'ils bougent, que ce soit en Allemagne ou en Italie, et surtout ils me disent « ouais, nous aussi on aimerait bien aller en France ».
Vukovar est prisonnière des vieilles rancœurs du passé, mais surtout de l'abandon des responsables politiques de la capitale Zagreb, qui n'ont que faire de ces marges oubliées. Si rien ne change dans quelques années, il n'y aura bientôt plus que les personnes âgées pour se rappeler des combats identitaires qui ont ravagé la ville dans les années 1990.
Białowieża, c'est la grande forêt primaire d'Europe. Formée voilà 10 000 ans déjà, les derniers bisons du continent y vivent en liberté. Classée patrimoine de l'UNESCO, elle s'étend sur 125 000 hectares et compte des arbres multiséculaires. Mais cette magnifique forêt est aujourd'hui menacée, malgré les avertissements de la Cour européenne de justice et le cri d'alarme lancé par les chercheurs et les écologistes. Les autorités de Varsovie font abattre à tout va des arbres multicentenaires. Pour Varsovie, il s'agit d'éradiquer un insectes qui déciment les épicéas, une justification dénoncée par les protecteurs de l'environnement. Maja Szymanowska.
À Pogorzelce, dans un petit village en plein cœur de la forêt vierge de Białowieża, personne ne dort malgré l'heure matinale. Nous sommes dans le camp pour la forêt, Orbus de la Puszcze, où l'on trouve deux vieilles granges et une aire de camping, un camping où des écologistes de tout pays ont élu domicile. Plusieurs personnes s'activent autour d'une gazinière et mettent en route le café. Quelques-unes se penchent sur une carte de la région pour déterminer les zones à patrouiller. Kasia, une grande brune, est dans le camp depuis plusieurs semaines.
Nous patrouillons dans la forêt tous les jours. Nous cherchons les machines, nous vérifions si des arbres centenaires ont été coupés. Nous comptons les cernes de croissance pour déterminer leur âge et nous vérifions que des coupes n'ont pas été faites dans des endroits normalement interdits.
En effet, la Cour de justice européenne a ordonné à la Pologne fin juillet de stopper les coupes. Un jugement qui a laissé de marbre les autorités de Varsovie. Les écologistes signalent tous les jours de nouvelles infractions. Ce jour-là, Kasia a la voix fatiguée et des cernes sous les yeux. Et pour cause, il a passé la nuit dans la forêt.
Nous avons découvert que des machines travaillaient la nuit. Nous avons essayé de les bloquer. Malheureusement, les gardes forestiers nous ont vus et nous ont fait partir. Mais on a pu constater que les coupes continuaient. Il y avait un grand tas de bois fraîchement coupé.
Le gouvernement justifie ces coupes pour des raisons de sécurité et pour lutter contre l'insecte xylophage, le borchim typographe, qui s'attaque aux épicéas. Le professeur Rafał Kasprzyk refuse en bloc ces arguments. Ce jeune scientifique travaille depuis 10 ans dans la forêt de Białowieża dans l'antenne de l'Académie des sciences.
Il ne se passe rien d'anormal dans cette forêt. Qu'il y ait du bois mort, c'est une chose tout à fait naturelle pour une forêt vierge. Le bois mort, c'est le garant de la biodiversité, dont les troncs secs vivent plein d'espèces, plein d'organismes différents.
Avec son 4x4, Rafał Kasprzyk peut se déplacer facilement sur tout le territoire de la réserve naturelle. Il montre l'étendue des dégâts, bien loin des chemins touristiques, en plein cœur de la zone 3, normalement classée patrimoine de l'UNESCO, et où les coupes sont interdites.
Vous voyez ici au fond à quoi cette forêt ressemblait avant l'arrivée des engins, des épicéas à sec certes, mais dans la couche inférieure, un beau renouvellement avec des jeunes chênes, des jeunes charmes, des noisetiers. Et le long de ce chemin, cette couche inférieure a été détruite par les machines harvester. On voit la différence. Voyez ces branches cassées, l'écorce arrachée, ces jeunes pousses rasées par ces lourdes machines qui n'étaient venues que pour couper quelques épicéas.
Ces dégâts importants ont ému une partie de la population locale qui vit du tourisme. Le café Bike est au cœur du village de Białowieża, le point de départ d'excursions dans la forêt. Monsieur Sławek, le tenancier, loue des vélos et sert de la bière locale. Sa famille vit depuis 7 générations dans cette région. Il a décidé de mobiliser ses concitoyens pour défendre la forêt contre les coupes.
Ce qui se passe dans la forêt est complètement inacceptable. L'importance des coupes, c'est du jamais vu. Il s'agit ni plus ni moins que de destruction massive. C'est la première fois que l'on voit ces grosses machines qui arrachent tout. Ce ne sont pas des machines adaptées à notre forêt. Ce n'est pas une forêt banale comme les autres. C'est cela, le cœur du problème. Faut-il considérer Białowieża comme une forêt exploitable comme les autres, entretenu par les hommes ou comme un patrimoine national, un joyau unique en Pologne. Je pense que les Polonais ne se rendent pas compte du caractère exceptionnel de Białowieża.
Cependant, tous ne partagent pas cette vision des choses. Une partie de la population locale soutient les autorités. Ce sont les familles des forestiers qui gagnent grassement leur vie. 4 fois le salaire minimum, fait très rare dans cette région plutôt pauvre. Małgorzata Kamińska est fille de forestier. Elle ne décolère pas contre les écologistes.
Nous voulons une forêt verte et debout et pas une forêt sèche et à l'abandon. Les machines coupent les arbres le long des chemins pour des raisons de sécurité. Si ces arbres tombent sur quelqu'un, mon Dieu, ce n'est pas les écologistes qui vont être tenus pour responsables.
Les actions de tous ces militants agacent cette partie de la communauté et suscitent une vague de méfiance vis-à-vis du campement qui rassemble des jeunes venus d'un peu partout. Obóz dla Puszczy est perçu comme une agression extérieure par des habitants et les mauvaises langues se délient. Małgorzata et son compagnon n'hésitent pas à se faire le relais de ces rumeurs.
On leur a demandé de quoi ils vivaient. Ça fait 3 mois qu'ils sont là et ils n'ont rien répondu.
Moi je sais, ils volent les habitants et ils volent leurs légumes aussi.
Oui, c'est vrai.
Ils se glissent dans les jardins et ils volent tout.
Oui, un concombre par-ci, une tomate par-là.
Les gens ont peur de sortir, ils crient, ils chahutent.
La question de la protection de la forêt divise profondément la population locale, à l'image du pays, fracturé en deux depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Chaque parti campe sur ses positions, le dialogue semble pour l'instant impossible. En attendant les mesures plus drastiques de la part de l'Union européenne, les pelleteuses continuent de vrombir dans la forêt.
Leaders. How to have a better death. Death is inevitable. A bad death is not.
Qu'on prenne le métro ou le bus pour aller travailler, qu'on fasse ses courses, nous le faisons souvent désormais avec des écouteurs dans les oreilles. Plus le temps de se poser pour lire la presse papier. Alors pourquoi pas écouter son journal ou son magazine préféré? C'est l'application que proposent plusieurs revues désormais au Royaume-Uni. Marie Billon.
Au Royaume-Uni, plusieurs dizaines de publications hebdomadaires ou mensuelles sont déjà disponibles en version audio. Les magazines d'histoire, de cuisine ou de savoir-vivre de la BBC, des publications économiques, scientifiques ou bien pour enfants. Plus besoin de se poser confortablement pour lire une revue, on peut désormais s'informer debout dans les métros bondés. Alors que la radio propose des reportages courts, un article de magazine, lui, peut être long et en profondeur, quitte à être âpre à l'écoute. Le magazine d'actualité réputé The Economist a été l'un des premiers à proposer une version écoutable.
The Economist.
April 2nd to April 8th, 2016.
Word for word. The articles from this week's edition of The Economist, including...
L'audio est inclus dans les abonnements papier, coûtant environ 15 € par mois, une mesure prise entre autres pour enrayer les désabonnements, de nombreux lecteurs affirmant ne plus avoir le temps pour lire le magazine. La presse écrite étant en difficulté, la rédaction a choisi de s'adapter.
The World This Week. Business.
Credit Suisse announced plans to sell 4 billion Swiss francs.
Chaque numéro de The Economist est bouclé vers 11h du matin, le jeudi, et doit être disponible pour ses abonnés digitaux à 19h. Branle-bas de combat donc toutes les semaines, car évidemment la lecture doit être de qualité. Ce sont des professionnels issus d'une agence ou bien des présentateurs télévision et radio qui effectuent les enregistrements dans plusieurs studios en même temps. Quelques points de montage et hop, voilà 5 à 6 heures de The Economist prêts pour vos oreilles. La revue assure qu'entre 25 et 30% de son lectorat télécharge le contenu audio. Une étude a même été faite révélant que le magazine est écouté dans la voiture, dans le train, mais aussi sous l'eau. Un abonné au moins s'informe tout en nageant.
Les jeunes européens. Jeunes européennes.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Elmino.
Bonjour Catherine.
Alors, vous faites votre rentrée dans Accent d'Europe, hein, comme des milliers de jeunes, voire très jeunes européens. En France, la QV 2017 a beaucoup fait parler d'elle, hein. Diminution des emplois aidés, retour de la semaine de 4 jours, réduction des effectifs dans les classes les plus difficiles. Et c'est l'occasion, hein, pour nous d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins.
Et oui, et c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lui-même qui l'affirme. Il veut s'inspirer des expériences internationales pour transformer l'école. D'autant que depuis la mise en place des études comparatives PISA pour les pays de l'OCDE, l'efficacité des systèmes éducatifs est facile à évaluer. La France ne brille d'ailleurs pas vraiment par son excellence, même si elle se maintient dans une grosse moyenne. Pire, 20% des élèves sont dans une situation préoccupante, notamment dans les milieux défavorisés.
Une chose est sûre, Eve, les petits Français ne sont pas les premiers à reprendre le chemin de l'école.
Ça non, les écoliers de 22 pays de l'OCDE avaient déjà retrouvé leurs cahiers avant lundi. Les plus rapides ont été les jeunes élèves du Land de Basse-Saxe en Allemagne le 3 août, suivis des petits Finlandais le 10. En fait, la grande majorité des pays européens a choisi le 1er septembre ou le 4, donc, comme la France, pour mettre fin aux grandes vacances.
En fait, c'est moins cette date de rentrée que la durée des vacances qui fait régulièrement débat en France. Alors Eve, les écoliers français sont-ils vraiment mieux lotis que les autres côté congé?
Eh bien écoutez, plutôt oui. En fait, il faut reconnaître que les Français, avec leurs 16 semaines de vacances annuelles, sont au-dessus de la moyenne, fixée à 14 semaines et demie au niveau européen. Les grands champions restent les Bulgares, 21 semaines de vacances, ça fait rêver. Et les Roumains, 18, loin devant les petits Néerlandais et leurs camarades danois, cette fois-ci 11 semaines au total sur l'année, dont seulement 6 l'été. Le ministre de l'Éducation a d'ailleurs annoncé quelques jours avant la rentrée vouloir rouvrir le débat autour des vacances de la Toussaint, passées à 2 semaines complètes il y a 5 ans, ce qu'il trouve trop long.
Pourtant, Eve, il semble que les différentes études montrent que le nombre d'heures passées à l'école avait moins d'influence que les politiques pédagogiques adoptées dans les différents pays.
Oui, il suffit pour s'en convaincre de se rendre en Finlande, où l'école 5e du dernier classement PISA est considérée ni plus ni moins comme la meilleure du continent. Mais ce n'est pas sûr que ces méthodes plaisent à tout le monde ici. D'abord parce que là-bas, le zéro n'existe pas. Les notes commencent à 4 sur 10. L'idée est que cela ne sert à rien de punir l'élève, le stigmatiser avec une note médiocre, qu'il faut davantage lui faire prendre conscience de ses lacunes, de son besoin d'aide et surtout lui offrir un traitement de faveur. Il aura donc plus de temps pour finir ses devoirs et il aura accès aussi à des cours de soutien gratuits après l'école avec des enseignants spécialisés. Globalement, les méthodes pédagogiques sont plus souples qu'en France. Par exemple, au lycée, le professeur choisit avec ses élèves en fonction de leur motivation, la forme du cours à donner, plutôt un cours magistral, sous forme d'exercice sur ordinateur ou encore au sein de petits groupes de travail.
Autre exemple pris ces derniers temps par la France, eh bien, c'est l'Allemagne.
Oui, l'Allemagne plutôt mal placée il y a 10 ans dans les classements internationaux. Le pays se voyait surtout reprocher, tout comme la France aujourd'hui, finalement, son modèle très inégalitaire. En gros, un système qui fonctionne très bien pour les bons élèves et mal pour ceux en difficulté. Aujourd'hui, le pays peut se targuer d'être remonté à la 16e place du classement PISA, grâce notamment à une batterie de réformes et d'investissements du côté de l'apprentissage du vocabulaire et de la langue allemande dès la maternelle, mais aussi avec l'aide de la multiplication des passerelles entre les filières générale, technologique et d'apprentissage, ce qui permet aux jeunes de trouver sa voie avec plus de sérénité.
Merci Eve, on se retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Réaliser une pizza grâce à la géothermie, il fallait y penser et cela ne pouvait se passer qu'à Naples, la capitale italienne de la pizza. La recette avec Cécile Debarge.
Sauce tomate, mozzarella et basilic frais. Même au sein de la première pizzeria géothermique du monde, personne ne se serait risqué à changer les ingrédients de ce classique de la cuisine italienne. Non, la nouveauté, introduite par l'audacieux géologue Vincenzo Albertini, est plutôt d'utiliser les ressources géothermiques du sous-sol napolitain pour mettre au point une pizza parfaite.
Le sous-sol de Naples est une serre naturelle. De l'hiver à l'été, la température change d'à peine 2 degrés, toujours entre 14 et 17 degrés, avec une humidité constante entre 50 et 60%.
L'explication vient du tuf volcanique, ce matériau poreux sur lequel s'est construite au fil des siècles la ville de Naples. Au cours de l'exposition universelle de Milan, il y a 2 ans, un appel à idées avait été lancé pour imaginer comment tirer profit de ce sous-sol. Vincenzo Albertini a eu l'idée d'y faire un potager à l'abri de toute pollution et qui ne soit pas dépendant des conditions météo. Immédiatement, le basilic a poussé mieux qu'en surface et c'est désormais la matière première qu'il utilise dans sa pizzeria géothermique. Récoltée sous la ville donc et mangée en surface. Même chose pour la pâte à pizza, mise à lever dans un petit local en sous-sol et qui est prête à être travaillée en 24 heures au lieu de 48. Basilic savoureux, pâte plus légère, restez donc à passer le test ultime de la pizza napolitaine, la manger frite dans l'huile, c'est la grande spécialité. Et après dégustation, le verdict est sans appel, Paris réussit.
À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants journal.